Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC et RMC Story. Les grandes gueules, c'est tous les jours en direct de 9h à midi. Les grandes gueules que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, avec les vidéos qui sont postées par notre community manager, Alexandra Bischoff, qui a rejoint l'équipe des GG là, pour quelques temps. Nous sommes aujourd'hui avec Elina Dumont, intervenante sociale. Alors, je rappelle que tu as, parce que je voyais passer une ou deux petites questions que tu as fait, que tu as écrit un livre sur ta vie, toi, l'ancienne
oui,
SDF, accro au crack. Tu as souvent témoigné aussi sur les plateaux télé pour raconter comment on peut s'en sortir, tout ce que tu fais aussi auprès des populations pour les aider. Voilà. Elina qui est avec nous, maître Charles Consigny, avocat, Joël Dagosséry qui est coach de vie, et puis nous sommes avec Claire Opetit, l'ancienne députée qui est, avant d'être députée, était notre GG de Seine-Saint-Denis, Claire Opetit. Emma Aziza, hydrologue, docteur de l'école des mines de Paris, sera avec les grandes gueules tout à l'heure à midi moins 25. On lui a demandé de venir nous expliquer précisément, elle qui regarde la carte de France des pluies, la carte de France des niveaux, des nappes phréatiques, de nous dire où on en est, si vraiment on est aujourd'hui à un plus bas niveau historique qu'il va être difficile de reconstituer si jamais il ne se met pas à pleuvoir normalement. Emma Aziza, hydrologue, tout à l'heure avec nous à midi moins 25. En attendant, on y va pour le GG7 et match.
RMC.
GG7 et match.
GG7 et match autour d'une proposition, celle du député, celle des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui va proposer une nouvelle loi à l'Assemblée nationale pour permettre aux autorités françaises d'instaurer une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers et permettre l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. On est face à un défi d'État, c'est ce qu'il dit Éric Ciotti. Cette proposition est d'ores et déjà soutenue par le Rassemblement national, mais elle fait face aussi à un problème, puisque dans ces cas-là, il faudra le contournement de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, est-ce qu'il faut ce double tour de vis, cette proposition de loi instaurer la double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers? On a une équipe, oui, avec Charles et Elina, une équipe, non, avec Joël et Claire. Allez, coup d'envoi de cette discussion avec Charles Consigny. Une minute, c'est parti.
Alors, non, mais moi j'ai répondu oui à cette question parce que je pense qu'il faut de nouveau en effet expulser les délinquants étrangers. Il faut que ces expulsions soient effectives et parce que les chiffres parlent pour eux malheureusement, et on peut donc pas se permettre de faire du politiquement correct sur cette question. Je crois qu'à Paris, 48% des crimes et des délits sont commis par des auteurs de nationalité étrangère. Donc, à un moment donné, il faut accepter de regarder ce problème comme il est et le traiter de manière efficace. Je ne soutiens pas l'automaticité de l'expulsion. Je pense qu'on ne peut pas, de toute manière, sur le plan constitutionnel, je ne pense qu'on peut pas décider d'une peine automatique de cette nature-là. En revanche, l'idée un peu bien pensante qui consiste à dire on supprime la double peine, c'était d'ailleurs Sarkozy à l'époque qui l'avait fait, on supprime la double peine parce que quand un étranger déjà est sanctionné par une sanction pénale, on va pas en plus l'expulser. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la délinquance et la criminalité ont pris des proportions telles que désormais, il faut dire aux gens qui se comportent mal sur le territoire français qu'ils n'y sont plus les bienvenus, et il faut joindre le geste à la parole, c'est-à-dire que c'est des gens qui doivent être raccompagnés dans leur pays d'origine. Ça me paraît d'ailleurs en réalité la moindre des choses. Quand on vient dans un pays qui n'est pas le sien, on en respecte les lois.
Là, c'est ce que veut Éric Ciotti, c'est bien la peine d'expulsion automatique. Hein. Lui, c'est ce qu'il souhaite.
Non, mais ça, c'est pas possible.
C'est automatique. Hein.
Ça veut rien dire.
Alors, on y va.
Ça sera de toute façon.
T'avais une minute là, tu l'as déjà passé.
Ça dépendra de toute façon de la décision.
Il faut mettre un carton.
De la décision d'un juge.
On m'a piqué mes cartes.
C'est incroyable.
Ah, mais moi, j'ai soutenu le non exactement pour les mêmes raisons que Charles. On peut faire exactement le même argumentaire.
C'est le oui, non ou c'est le non.
Je suis l'homme de la synthèse.
C'est le non. Macroniste.
C'est le nom.
Je rassemble.
Parce que c'est l'automaticité réalité qui va clairement déplu dans cette.
Pas en quoi l'automaticité vous gêne, mais bon.
Je trouve qu'il y a une sorte de justice d'exception pour quelqu'un qui serait étranger, qui me déplaît. Quelque chose d'un peu radical et d'un peu à l'emporte-pièce qui me déplaît. Mais sinon, la philosophie, en tout cas, de la mesure, je suis plutôt pour. Je souscris au fait qu'effectivement.
Alors, t'es avec nous.
Mais oui, mais l'automaticité me dérange fortement qu'elle soit appliquée aux étrangers de cette manière. À ce moment-là, pourquoi pas l'automaticité sur tout le monde? Alors, automatiquement, tout délinquant serait condamné de ci ou de ça. Non, pourquoi est-ce que
ça, il y a les peines planchers, par exemple, qui elles non plus ne peuvent pas fonctionner parce qu'il faut que les sanctions pénales soient individualisées.
Voilà, exactement.
Claire au petit.
Je suis exactement dans la même position. C'est-à-dire que moi, j'ai répondu non. Parce que évidemment que l'expulsion automatique, c'est pas possible. Déjà, c'est complètement démago. Il sait très bien que ça ne passera pas. Ensuite, chaque peine est quand même personnelle, individuelle, et elle doit être proportionnée évidemment en rapport de la délinquance que la personne a faite. Donc, il y a énormément de choses. On ne peut pas faire une loi et elle passera pas. De toute façon, il fait une loi, fait une proposition de loi. À l'Assemblée, ils vont regarder si elle correspond, si ça va. Là, c'est les juristes de l'Assemblée. Du coup, il va avoir, comme moi, j'ai ma proposition de loi qui n'a jamais été... Je ne sais pas si vous avez déjà vu.
Non, on l'a pas vu.
Voilà. Donc voilà une proposition de loi d'une députée, voilà, Claire Petit, hein, elle date du 21 juillet. Donc j'ai fait une proposition de loi qui était limiter le cumul des fonctions exécutives dans les collectivités territoriales et des groupes de collectivités territoriales. Donc il y a de là, tu fais ta proposition de loi, tu la déposes après, tu as les articles. Si elle est conforme au règlement,
elle est présentée.
Elle est présentée, elle existe, elle est là. Mais comme ça n'a pas intéressé ni le ministère, ni l'Assemblée, ni le président de l'Assemblée, elle est restée dans le tiroir, mais j'ai trois propositions de loi comme ça. Donc là, il fait uniquement pour se faire entendre.
Alors attends, c'est quoi? C'est l'électoralisme, c'est ça? C'est
oui, complètement.
Tu peux pas reprocher une personne.
Non, je le reproche pas. Je dis simplement qu'il sait pertinemment.
Cette ligne,
mais la ligne est
radicalité.
Mais la ligne, on l'a compris.
Et face aujourd'hui à des.
Que si on pouvait faire
face aujourd'hui, les Français ont un sentiment, ils comprennent pas, si tu veux, qu'une personne qui est sur notre territoire, qui est de manière illégale, qui en plus est délinquante, reste.
Non, mais la double peine, je suis pour la double peine.
Mais pourquoi tu n'expulses pas la personne?
Parce que ça t'enchaîne. Tu vas pas.
Elle est là de manière illégale. Elle est délinquante, monsieur, désolé.
Attends, il y a délinquant.
Vous ne pouvez pas rester. Au revoir, vous repartez.
Oui, mais il y a délinquance, c'est délinquance. Si c'est. Je ne sais pas comment dire, parce qu'à partir du moment, en général, il y a une victime. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui a volé des kilos d'orange ou des choses comme ça, tu ne vas pas l'expulser. Ce n'est pas possible. Par contre, on le laisse une fois repartir, mais s'il recommence et que c'est du vol et qu'il en fait. Là, tu l'expulses. Mais.
Oui, tu
ne peux pas, dès le départ, dire attention, tu as mal traversé la rue, tu n'as pas respecté le feu rouge à la place du feu vert. Enfin, si tu veux vraiment passer dans l'extrême,
c'est
ce que j'allais dire.
Attention,
c'est ce que j'allais dire.
Attention, une loi, c'est pas n'importe quoi.
Non, mais une loi, ça s'écrit. Moi, je suis complètement d'accord avec Alain, c'est sûr que c'est pas pour avoir volé des oranges qu'on va t'expulser. Moi, je suis allé du côté du non, je vais être honnête avec vous. Hier, avec ma copine Sabrina, qui travaille à la préfecture du 93.
T'as dit oui.
Oui, j'ai dit oui.
Non, t'as dit non,
là.
Décidément. Hein. Oui, enfin, du non.
Du oui.
Du oui.
Ça s'arrange.
Ah non, mais j'ai un problème. Non, c'est lundi, c'est lundi.
En vacances.
Mais ouais, c'est ça, c'est ça.
Prennent quelques jours.
Non, mais parce que moi, je pars du principe.
On va peut-être expulser automatiquement.
Moi, bon, je sais pas. Moi, j'y connais rien en justice. Je sais pas. Moi, le côté automatique, ça me dérange pas du tout. Par contre, moi, je veux vraiment que ce soit fait par un juge qui décide, quoi, pas par
Il faut que ce soit un juge qui décide de la peine automatique.
Non, justement, c'est ça le problème.
Soit elle est automatique, soit c'est un juge qui la décide.
Non, non, tu peux pas. Une loi, c'est
bon,
pour
d'accord.
ça.
Moi,
c'est pour
dis, ça que je connais non. rien. Bon, mais avec ma copine, non, avec
à partir du moment où il y a condamnation,
voilà. il veut pas que ce soit une peine automatique avec ceci. Il veut que de manière automatique,
il y ait expulsion quand il y a condamnation
administrative, quand il y a une condamnation pénale.
Oui, bon, d'accord. Bon, après, évidemment, on peut parler, comme toi, de la délinquance et tout, mais ma copine Sabrina, hier, m'a dit que, de toute façon, ça existait déjà et que, régulièrement, il y a des gens, suite à des actes délinquants, qui sont expulsés. Bon, sauf que là, la loi, elle serait encore plus dure.
Il y en a très peu, en réalité, parce
écoute,
qu'il y a des gens qui suivent...
La préfecture
oui,
a fait que ça.
Ils font l'objet d'obligations de quitter le territoire, mais en pratique, ces obligations, ce qu'on appelle les OQTF, ne sont pas exécutées. Donc, c'est des gens qui ne quittent pas le territoire.
Donc, il y a un problème dans la non-exécution
des obligations de quitter le territoire français. Il y a une démission de l'État sur ce sujet. On n'expulse pas les gens. On expulse très peu d'étrangers. Alors, c'est peut-être une.
Peut-être que justement,
Mais tu aurais le même problème, Alain, puisqu'on décernerait automatiquement des obligations de quitter le territoire qui ne seraient pas exécutées.
Nous sommes avec Michel qui veut discuter avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue Michel. Qu'en dites-vous alors ?
Eh bien, moi je pense qu'effectivement, avant toute chose, on devrait exécuter les lois. Mmh. Parce qu'on se rend bien compte que les prisons sont quand même à 90% remplies d'étrangers. Et pas n'importe lesquels.
90%, 90%.
Il y a beaucoup de gens d'origine étrangère, si vous voulez, qui ont des noms à consonance étrangère, voilà, ouais. Mais il y a à peu près 20% d'étrangers.
Il y a plus que ça. Non,
bah, de personnes qui n'ont pas de nationalité française, c'est autour de 20-25%.
Oui. Bon, moi, avant toute chose, déjà, exécutons les lois. C'est-à-dire qu'il faut expulser réellement, tous les étrangers qui sont là sans papier. Qui sont là, si vous voulez, en dehors des... Ceux qui sont sans papier et qui bossent, c'est pas un problème. Mais tous ceux qui sont délinquants, il faut les expulser. Moi, dans tous ces pays d'où viennent ces gens-là, j'habitais dans ces pays. Et je peux vous dire qu'ils ne font pas le dixième de ce qu'ils font chez nous. Ils respectent leur pays et chez nous, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'on ne leur dira rien. On va les nourrir, les loger, les excuser.
Et donc,
ils n'iront pas, ils ne seront pas expulsés.
Ils sont dehors, quand même.
On va les nourrir. Je sais pas de qui vous parlez. On va les nourrir. Il y a des délinquants qui sont délinquants et qui travaillent. Ça, il faut le savoir. La délinquance, c'est pas uniquement des gens qui ne travaillent pas. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent et qui font, par exemple, ce qu'on appelle du business à côté. Et pourtant, ils sont salariés. Donc,
la drogue ou autre chose.
Mais je veux dire, avoir une vision de personnes qui viennent et que vous nourrissez et que vous logez et que vous longez, etc. Enfin, ça fait années 80, madame. Il faut un peu sortir de ça.
Non, madame. Ouais. C'est pas années 80. Je vais vous dire quelque chose. Dans tous les quartiers ici, nous avons il y a des délinquants. Moi, j'habite Nice. Il y a des délinquants, des dealers. Oui. Tous ces gens-là sont. Il y a une partie qui sont français, malheureusement, hein. Malheureusement, je dis bien, parce qu'on leur a donné des nationalités sans que les parents les aient éduqués, hein. Donc, tous ceux qui, je pense qu'on en a suffisamment. Donc, tous ceux qui sont étrangers sur le territoire, qui ne respectent pas les lois du pays, doivent être expulsés. C'est très clair. Chez eux, on est expulsés. Et je trouve ça logique. Ou on va dans un pays, on dit merci de nous recevoir, et on est comme tout le monde, mais à partir du moment où on ne respecte pas les lois du pays, on doit être expulsé, et pour cela, il faut que les lois soient exécutées. Voilà.
Mais c'est pas le problème.
Il y en a déjà, mais elles ne sont pas exécutées.
C'est l'automaticité qui pose un souci.
Pourquoi elles ne sont pas exécutées ? Parce que le problème est là. Sur le fond, on peut être d'accord à partir du moment où quelqu'un... Et en France, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule chose qu'il y a, c'est que pour expulser, il y a des lois, Il y a également la possibilité. Il y a des recours, il y a des avocats, il y a tout ça. Ça met quelquefois un an, deux ans. Il y a des avocats qui sont très bons et qui savent très bien trouver la petite faille qui fait que, hein, parce que, alors, s'il n'y avait pas des avocats, ben oui, mais heureusement, nous sommes dans un pays de droit, il y a des avocats. Donc les personnes sont là. Après, il faut encore que les pays d'origine les acceptent, parce que sinon, vous en faites quoi,
ce problème?
Il y a énormément de problèmes. Si c'était aussi simple, et nous aimerions que ça soit aussi simple, mais ça ne l'est pas. Et nous sommes un pays de droit, il faut savoir le respecter.
La semaine dernière, Gérard Darmanin, il y a 10 jours, quand il était au quartier de la Guillotière à Lyon, et qu'il regardait les statistiques, c'est lui-même qui l'a dit, lui-même disait que 37% des actes de délinquance qui étaient commis dans le quartier étaient par des personnes qui étaient étrangères en situation irrégulière. Ensuite, on a 27% de la population carcérale française qui est d'origine étrangère. Donc, si tu veux, le citoyen se dit, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Après, faut pas s'étonner et pousser des grands cris quand, pour la deuxième année consécutive, tu as la candidate du Rassemblement National qui est sur le deuxième tour de l'élection présidentielle et que tu te retrouves avec 89 députés. Là, il y a une responsabilité de l'ensemble des politiques
qui sont
là à crier au laxisme ou attention au danger fasciste et qui ne font pas appliquer les lois telles qu'elles devraient être appliquées vis-à-vis de ceux qui sont en délinquance.
C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la loi que les futurs députés vont voter, que va nous proposer Darmanin. Parce qu'il faut vraiment que ça soit des choses qui soient accessibles, faisables. Voilà. Ne pas faire rêver, ne pas penser, faire croire qu'une simple loi, même durcie qu'il n'y a pas, il faut vraiment... Doit-on déjà, puisque une personne qui rentre sans papier en France, ce n'est plus un délit. Doit-on remettre un délit? C'est un véritable débat. Donc, il va avoir tous ces débats-là à l'Assemblée, mais il va falloir que ça soit pas du rêve, mais de la réalité faisable.
Je vais vous dire, les filles, vous savez, n'importe quel étranger qui est honnête, il est d'accord avec nous, avec il est venu en France pour construire sa vie, pour travailler.
Mais t'as entendu le ras-le-bol de Michel, donc que ce soit instauré, que ce soit fait, exécuté.
Est-ce qu'on peut déjà nous dire, enfin un truc tout simple, nous dire comment on peut faire exécuter toutes les OQTF qui se baladent sur le territoire. Déjà, si on pouvait nous donner une solution avant de nous pondre des nouvelles lois.
Voilà, ça va être 30 jours à 15 jours. Le délai d'obligation de quitter le territoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition d'Éric Ciotti, cette automaticité de l'expulsion de l'étranger en situation irrégulière qui commet un acte de délinquance? 95% de ceux qui nous écoutent sont d'accord avec ça.
Mais
je remercie Michel d'avoir été... c'est démago quant aujourd'hui.
Elina et moi qui avons raison, et Joël et Claire sont dans les champs.
Allez, à tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur AMC.
C'était démago, en fait.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal,
Olivier Truchot.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui Elina Dumont, Charles Consigny, Claire Petit et Joël Dagosséry. Nous sommes en pleine discussion autour de cette proposition d'Éric Ciotti qui va déposer une proposition de loi qui permettrait aux autorités françaises d'instaurer la double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers et permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. C'est Sidi qui veut en parler avec nous. Bonjour Sidi.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Qu'en dites-vous? Vous êtes dans quelle catégorie? Ceux qui disent oui à la proposition d'Éric Ciotti ou plutôt non? Alors, dites-nous.
Moi, je suis complètement d'accord avec la proposition d'Éric Ciotti et je vais juste intervenir du coup moi sur l'intervention de Charles, vu que c'est un avocat.
Oui.
Il a dit que il y a peu d'expulsions d'étrangers en France, qu'ils soient délinquants ou pas, parce qu'en fait moi je viens des départements d'outre-mer, je viens de Mayotte.
Ouais.
Et je sais que là-bas, les gens sont systématiquement délinquants ou pas délinquants. Ils sont systématiquement renvoyés sur les îles d'à côté, c'est-à-dire les Comores. Et moi, j'aimerais bien qu'il m'explique, du coup, Charles, vu qu'il connaît ça, il connaît un peu plus loin que moi, cette méthode qui est utilisée dans les départements d'outre-mer et cette méthode qui est utilisée en France métropolitaine qui me semble je ne comprends pas cette façon de faire, parce que je sais qu'ici, en métropole, personne n'est expulsé. En fait, il n'y a pas d'expulsion ici. Comme ça se fait dans les départements d'outre-mer.
Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont expulsés plus facilement en outre-mer qu'en France. Je pense que c'est parce qu'ils sont envoyés vers des pays qui acceptent de les reprendre et parce que c'est plus facile en pratique de les raccompagner.
Mais Sidi, pourquoi vous voulez cette automaticité, faire en sorte que ça soit fait immédiatement alors?
Ben parce que parce qu'en fait, moi, je parle de mon département parce que normalement, je parle de mon île. Hein, je prends un exemple parce que, par exemple, moi, je sais que là-bas, on était 200 000 habitants et maintenant, on est à plus de 400 000 habitants. Et en fait, l'insécurité, elle est palpable et c'est quelque chose qui est très pesant sur l'île. Et j'ai été en vacances, moi, récemment avec ma femme qui est bretonne, qui vient d'ici, avec ma fille. Et je sais que, en fait, la police là-bas, il fait une chasse à l'homme, que tu sois délinquant ou pas délinquant. Du coup, les gens, ils sont renvoyés. Et je vis en métropole, moi, depuis plusieurs années. Et je sais qu'ici, j'ai jamais vu la police aux frontières aller chasser du monde un peu partout dans les villes en France. C'est ça que je comprends pas, moi, en fait.
Vous voudriez simplement qu'on applique les lois et qu'on fasse preuve de sévérité avec ceux qui troublent l'ordre public et qui sont condamnés derrière et qui sont en situation irrégulière sur le territoire.
Exactement. Moi, c'est ça que j'aimerais bien comprendre.
Moi, je pense que c'est aussi une question de mentalité et je pense que ce serait, enfin, ils pensent en tout cas peut-être l'État que ce serait moins accepté de ce genre de pratique, auprès de la population.
Qui n'accepterait pas?
Et je sais pas, auprès de la population. Et puis Mayotte, c'est une petite île.
Mais peut-être pas envie d'assister à une traque des étrangers. Oui,
à quel moment qui a parlé de traque?
Notre auditeur qui nous parle de chasse à l'homme.
Oui, mais peut-être que le mot est mal employé, mais c'est dire simplement que lorsqu'une personne est condamnée en situation irrégulière, c'est pas la traquer ou la chasser, du territoire. C'est au sens de chasser du territoire, de l'expulser du territoire.
Peut-être que l'insécurité est beaucoup plus oppressante sur une petite île comme Mayotte que sur la métropole.
Ce qu'il y a eu à Mayotte, déjà, c'est que les femmes venaient accoucher à Mayotte. Parce que comme leurs enfants, devenaient français...
Tu crois pas qu'elle est très présente, la sécurité, que ce soit les gens du quartier de la Villeneuve à Grenoble ou du côté du quartier de la Guillotière à Lyon ou dans différents endroits où en plus tu vois les statistiques où on te dit que ceux qui sont arrêtés, on n'arrive pas à les expulser ou on met du temps à les expulser. Ouais. Ils le ressentent aussi, ça. Si tu veux, comme tout à l'heure, notre auditrice qui nous appelait de quartier de Nice, elle dit, moi, je comprends pas, je pige pas, je ne comprends pas, alors qu'on sait que ce sont des gens qui sont situation irrégulière et qui commettent des délits. Pourquoi, si tu veux, ils sont toujours là.
Moi, je suis d'accord. Attends, je vais prendre un exemple.
Alors, l'automaticité est peut-être compliquée à mettre en place dans les faits.
Elle n'est pas possible.
Mais il faut déjà traduire dans les faits simplement la sanction et l'expulsion.
Un exemple très concret. Par rapport aux femmes battues.
Mais même le crack, regarde, on a souvent parlé. Ce sont des étrangers qui sont en situation irrégulière.
Ils sont tranquilles.
Ils n'ont pas à être tranquilles. Puisqu'ils sont interpellés, condamnés. Et certains multi-condamnés.
Par exemple, par rapport à la problématique des femmes battues, il y a combien de femmes, leur mari n'était pas français, il les a quand même tuées. Enfin, il a quand même tué sa femme, il a été avec une autre femme, reviolence, le gars il est censé être retourné dans son pays, il est toujours là, et il va peut-être tuer une prochaine femme. Tu vois, ça c'est pas logique ça. Il y a un truc qui cloche quoi.
C'est pas logique, déjà c'est l'autre femme qui retourne avec un mec pareil, hein. Excuse-moi.
Mais tu peux pas mettre ça uniquement sur le compte de la lenteur administrative, Charles Consigny.
Il n'y a pas de volonté politique de procéder à des expulsions. Je pense que ça coûte cher, je pense que c'est compliqué à faire techniquement. Je pense que les pays... Mais je dis pas que c'est bien qu'il n'y ait pas de volonté politique. Moi, je pense qu'il faut une volonté politique. Mais de fait, il n'y a pas de volonté. Et je pense que en pratique, c'est quelque chose d'assez... c'est une mesure qui est très dure de renvoyer quelqu'un qui vient d'un pays pauvre, en guerre, où il y a des persécutions diverses et variées.
Et il faut l'accord du pays aussi.
On n'a pas envie. Il y a une espèce de d'abandon politique sur ce sujet-là, parce qu'on n'a pas envie de renvoyer les gens vers ce genre de pays. Mais je pense que des gens qui commettent un délit, deux délits, trois délits, il y a un moment, il faut dire merci.
Ça
a dû décliner, parce que quand j'étais plus jeune, dans nos familles, on connaissait toujours 3-4 personnes qui étaient venues en situation irrégulière et qui étaient expulsées. On entendait bien nos parents parler et dire il a été expulsé, etc. Alors maintenant, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça s'entend beaucoup moins. Donc, je pense que ça a décliné avec le temps. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que ça a une mauvaise image. Mais l'image des charters, en tout cas, moi, j'ai grandi avec l'image charter. Et d'ailleurs, on en fait toujours une blague. On dit toujours, arrête de déconner. Ouais, on dit, arrête de déconner, sinon, tu es dans le prochain charter. Et ça, c'était devenu un running gag, comme on dit, dans les communautés. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a disparu.
Mitterrand. Voilà.
Bah, j'étais sous Mitterrand,
la gauche est arrivée. Mitterrand, la tolérance de la gauche en est arrivée là.
Puisque Pasqua et les charters de Pasqua, c'était après, la première cohabitation qu'il avait mis en place, c'est les fameux charters de Pasqua. Parce qu'avant, elle n'était pas née, la mère Joëlle Labbé.
Mais non, moi, je suis née sous Giscard.
Et alors, ça fait quoi?
C'est bien. J'ai connu la belle époque. On pouvait venir, les portes de la France étaient ouvertes, tous mes tontons venaient. Ils ont fait des sacoffes.
Effectivement. Merci d'avoir participé à cette discussion. On va regarder, je crois que c'est sans appel, hein. L'expulsion automatique pour les étrangers qui commettent des actes de délinquance. Et ça a même monté, c'était 95,5 juste avant la pause. Et là, c'est 96 et contre 4.
On a été très, très, très bon avec Elina dans la persuasion. On a été.
Vous avez sorti sur la démagogie,
alors que Claire, le populisme
primaire.
On a raconté n'importe quoi. Mais non, on est en prise avec le réel. On est dans la réalité.
N'importe quoi.
Tu sens la France.
On ne fait pas de politiquement correct. On cherche à traiter les problèmes
vous
là où Elina.
Vous donnez des politiques inefficaces
là où
et inapplicables.
Claire et Joël sont dans des postures.
Nous on est dans le réel.
Alors que nous qui sommes dans le contraire, on fait 96%.
Pas du tout.
Donc posez-vous des questions sur vos postures.
Toi, te pose pas des questions.
Elles font le score de la gauche.
Exactement. Voilà où vous en êtes.
Pas vrai, on n'a pas le score de Valérie Pécresse. N'importe quoi.
Je suis désolée, mais je ne suis pas de gauche.
Dans un instant, avec les GG et Maziza, l'hydrologue, où en sont les nappes phréatiques en France, ce niveau d'eau historiquement bas? Est-ce qu'on court vraiment à la catastrophe? Elle a ses courbes, elle a ses chiffres et elle va nous expliquer tout ça dans un instant.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, c'est en direct sur RMC. RMC Story, c'est tous les jours de 9h à midi. Vous suivez les Grandes Gueules, vous les écoutez, vous les regardez, vous les podcastez aussi via l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Claire Aupetit, l'ancienne députée de la majorité, Joël Dagosséry, coach de vie, Elina Dumont, intervenante sociale, et Charles Consigny, avocat. Voilà le carré de GG qui est avec vous ce matin. On accueille notre invité pour reparler de cette situation de sécheresse.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est Emma Aziza qui est avec nous, un visage qui commence à vous être familier maintenant si vous suivez les chaînes info lorsqu'il y a ces problèmes de pluie ou de sécheresse. On a besoin d'avoir un avis scientifique basé simplement sur des données brutes. Bonjour Emma Aziza.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue et docteur de l'École des Mines de Paris. Donc, pas d'idéologie, avez-vous? Vous n'êtes pas politique.
Non.
D'accord. Donc là, depuis quelques jours, on nous dit on va à la catastrophe. Des communes ne vont plus avoir du tout d'eau. La Haute-Corse n'aura peut-être plus d'eau potable dans 15 jours. Est-ce qu'on se fait peur ou c'est vrai?
Je pense que c'est vrai et en fait c'est quelque chose qu'on était capable de voir dès le mois de février-mars. Donc c'est peut-être plus la question qu'il faut se poser, c'est que cette année est une année vraiment particulière parce qu'on n'a pas eu de recharge pendant l'hiver. Et donc si vous n'avez pas ces masses d'eau qui nous permettent de tenir pendant le printemps et l'été, on sait déjà qu'on va courir à la catastrophe. Après si on prend un tout petit peu plus de recul et qu'on regarde les 5 dernières années, on se rend bien compte qu'on est sorti en fait d'une variabilité naturelle du climat où on avait des sécheresses, on avait des inondations dantesques, mais finalement qui arrivaient tous les 50, 100 ans, etc. Et là, en fait, on est en train de basculer dans une ère nouvelle où chaque année, on a un événement toujours un peu plus grave, toujours différent de l'année précédente, mais par contre avec toujours le même résultat, une sécheresse historique. Et si juste on regarde l'année dernière qui a été très pluvieuse sur la France, on se rappelle tous d'un été particulièrement maussade et froid, et qu'on prend un tout petit peu plus de recul, on se rend compte que tout autour de cette situation très particulière qui a été à l'origine des inondations de la Belgique et de l'Allemagne, eh bien en réalité, on avait un dôme de chaleur en Espagne, on avait 48,8 degrés en Sicile, on avait des feux immaîtrisables en Grèce ou en Algérie. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de nouveau et c'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner dans notre futur. Et si on n'a pas réagi cette année, au moins il va falloir se poser des questions.
Oui, mais là concrètement, dans la centaine de communes qui sont déjà privées d'eau potable, que va-t-il se passer dans les semaines et dans les mois à venir, ou même d'ici la fin de l'année? Alors, dans quelle situation vont-elles se retrouver?
Alors, il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est qu'on ait des pluies, peut-être pas en septembre, mais plutôt à partir d'octobre, c'est-à-dire après la période d'équinoxe. Souvent, ce sont des précipitations méditerranéennes qui peuvent remonter sur la France, qui vont être plutôt diluviennes. Et donc, elles sont aussi fonction d'un paramètre qui est essentiel, c'est la température de la Méditerranée. Et on voit très bien qu'on a un gradient de température qui monte jusqu'à plus 6,5 degrés par rapport à la normale. Donc, en fait, plus on a une eau chaude, plus on a une réserve potentielle d'énergie et de vapeur, plus les pluies seront diluviennes. Donc ça, c'est un petit peu l'autre verre de la médaille à laquelle il va falloir s'attendre dès le mois de septembre-octobre. Et puis, en fait, les zones qui vont être saturées en eau parce qu'il y aura trop d'eau, seront vraiment circonscrites aux zones de pluie. Tout le reste, finalement, des autres secteurs de la métropole continueront à vivre des sécheresses. Et en 2017, la sécheresse s'était arrêtée le 26 décembre. On avait basculé en 2018 sur 3 semaines d'inondation de la Seine. Mais en réalité, je me rappelle très bien avoir parlé du sujet sécheresse historique et d'avoir basculé sur, finalement, l'opposé.
Mais on est vraiment dans des nappes qui sont à un niveau, une nappe phréatique, historiquement bas aujourd'hui, oui. Alarmant.
Oui, et alors, en fait, on n'est pas tous égaux par rapport à notre relation à l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne vit pas sur les mêmes substratums, c'est-à-dire sur la même géologie. Vous avez certaines zones dans lesquelles on va avoir des nappes très, très réactives autant aux sécheresses qu'aux pluies, donc finalement qui vont pouvoir se recharger très, très vite, alors que vous avez d'autres nappes qui vont, au contraire, tenir très longtemps. Le bassin parisien est situé sur... Il y a une nappe fossile sous le bassin parisien qui pourrait nous permettre de tenir 20 à 25 ans, alors que dans d'autres zones, on est dans des situation à la limite de ce point zéro, on voit des camions citernes qui sont en train d'alimenter le territoire.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un point zéro alors une agglomération ou un département en fait.
C'est le moment où il n'y a plus d'eau au robinet. C'est-à-dire que le moment où à un moment donné, on a usé tous les moyens qu'on avait en notre possession, que ce soit lorsqu'on réserve de l'eau en amont à travers des barrages, à travers des retenues. Et en fait, si vous voulez, cette eau-là n'est plus là. Et à ce moment-là, le seul recours qu'on a, c'est de faire appel aux autres. À travers des camions.
De faire venir de l'eau, quoi, en
exactement.
Fait.
Exactement.
Ou de pomper un lac, comme c'est ce qui se fait à Gérardmer dans les Vosges.
Exactement. On va aller chercher l'eau là où elle est et on va l'amener dans les tuyaux qui permettront d'alimenter en eau potable.
Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'un hiver très neigeux et très pluvieux pour reconstituer ces nappes ou pas ?
Eh bien, j'aurais eu tendance à vous dire ça quand on regarde sur le plan logique.
Le réflexe, c'est de dire,
logique.
Il va bien neiger cet hiver, on croise les doigts, et puis ensuite ça va fondre, ça va redescendre dans les sols, et on sera tranquille.
Sauf qu'en réalité, c'est pas ce qui se passe, et quand on analyse dans le détail ces 5 dernières années, on se rend compte qu'en 2018, 2019 et 2020, on avait des recharges excédentaires l'hiver. On a démarré l'été en étant vraiment confiant. En 2018, on avait eu ces grandes inondations de la Seine, on avait vraiment une France très arrosée, et donc on avait 30% de plus dans nos aquifères. Et il a suffi de canicules, il a suffi de températures au-dessus de la normale pour que, peu à peu, on réatteigne le même résultat.
Alors, question, Joël, Elina, Charles, Claire, Joël.
J'ai une question un peu basique. On parle souvent de la consommation d'eau potable, le robinet, mais je sais que la France est un gros consommateur d'eau en bouteille. Et d'eau minérale, et j'aimerais savoir quelles conséquences ça a. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux, justement, notre consommation d'eau, je dirais, va au robinet, et puis la consommation d'eau en bouteille?
Alors, ce qui est sûr, enfin, le problème de l'eau en bouteille, c'est le plastique, c'est le transport, c'est le fait d'aller chercher de l'eau bien loin d'où vous habitez, et finalement de transporter de l'eau via du plastique, c'est le plastique que vous ingérez. Enfin, il y a quand même pas mal de problèmes qui font qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de l'eau en bouteille. D'ailleurs, il y a des start-up qui naissent aujourd'hui, qui sont super intéressantes, qui vous permettent de mieux filtrer l'eau. Parce que le problème de notre rapport à l'eau, c'est presque un problème émotionnel, c'est le problème de goût, c'est le problème de sensation, on n'a pas envie de sentir le chlore. Et donc, pour ça, il existe des solutions pour purifier l'eau et localement pouvoir utiliser l'eau parce qu'elle est bonne, elle est de bonne qualité. Elle est mesurée en permanence avec des critères plutôt vraiment très pointu. La seule chose qui nous manque, si vous voulez, c'est la manière de la transformer. Donc je pense qu'on ira de plus en plus dans les années à venir vers des solutions développées sans doute dans l'électroménager pour qu'on puisse récupérer de l'eau et la transformer dans une autre boisson avec un goût qui ressemble au goût de l'eau de montagne.
Joël, attendez, pour compléter la question de Joël, je vois que du côté de la région de Volvic, on estime qu'aujourd'hui, les industriels de Volvic pompent trop dans les nappes phréatiques, dans la source, pour faire cette eau. Est-ce que là aussi,
c'est
on a
bon
besoin
en plus, la Volvic.
Toi, alors là, moi, je suis un foutu de reconnaître les autres eaux minérales.
Pas bon.
Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'eau minérale et d'aller puiser autant dans...
Non, c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un système. Ils le savent très bien que le système est à bout de souffle. Donc, ils le savent très bien, ils continuent. D'ailleurs,
donc,
on voit très bien qu'il y a certaines marques.
Aujourd'hui.
Regardez le marketing d'Evian, il est en train de se transformer. Il essaye de vous proposer de grands cubis d'eau beaucoup plus importants pour réduire le taux de plastique. Il essaye justement de vous expliquer à quel point il modifie les types de plastique utilisés.
Oui, mais on utilise du plastique. Mais on pompe quand même.
Mais on continue à pomper.
Parce qu'on vend des millions et des millions de bouteilles
de minerais. À partir du moment où on est sur une économie, en fait, on pompe de l'eau. Mais on peut parler des usines, justement, de cette industrie de l'eau en plastique, mais on pourrait parler de tellement d'autres choses qui utilisent de l'eau. En réalité, il faut comprendre que tout utilise de l'eau dans nos vies. C'est-à-dire que nous, autant que l'on est, on utilise entre 5000 et 7000 litres d'eau par jour. On l'utilise de l'eau derrière ce que l'on mange, parce que pour une kilocalorie, il faut à peu près un litre d'eau. Plus on va rajouter de parts carnées, plus on va avoir d'eau consommée. Et puis, vous rajoutez à ça vos habits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Inde, chez les petits agriculteurs locaux, on vient chez eux avec des camions-citernes, non pas pour récupérer leur agriculture, mais pour récupérer leur eau, pour alimenter en fait des usines textiles à côté qui vont ensuite polluer massivement les nappes et les populations, tout simplement parce qu'il va falloir les assumer, les 18 collections de fringues qu'on reçoit chaque année. Et donc, en fin de compte, derrière tous nos modes de consommation se cache de l'eau, même derrière le pétrole, derrière le gaz, le charbon, il faut d'énormes cuves d'eau. Donc en fait, la Chine s'est même retrouvée, lorsqu'elle n'a plus eu assez d'eau l'année dernière avec une sécheresse historique, à ne même pas pouvoir exploiter son charbon. Elle a dû faire appel au gaz liquéfié qatari. Donc on voit qu'en fin de compte, c'est que des réactions en chaîne. Et cette interdépendance de nos sociétés, elle est liée aussi
au climat. Donc le temps de l'abondance de l'eau est terminé.
Je pense.
Et alors selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire très concrètement?
Ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de repenser qui sont les utilisateurs de l'eau, ce qu'ils consomment, est-ce que ce système, on peut le continuer, jusqu'à où ? On parle beaucoup de la question du maïs, c'est une vraie question qu'il faut se poser, parce que le maïs, c'est un graminé tropical, il n'est pas du tout fait pour être finalement exploité sur nos terres, et en plus, qui n'a pas de racines profondes, donc qui a besoin d'être alimenté par de l'irrigation. Donc il va falloir pomper massivement dans les nappes ou dans les rivières pour pouvoir l'alimenter. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Le problème, c'est qu'on a une interdépendance avec le maïs. Alors 70% va servir à l'alimentation bovine, donc on peut réduire notre part carnée, mais ensuite, il y a tout le monde de la cosmétique qui en a besoin, le monde de la papeterie qui a besoin d'amidon. Comment, à un moment donné, on recrée un modèle en essayant de pallier à nos insuffisances, parce que ce que ça nous montre, c'est juste qu'on est tellement interdépendant à cette nature que quand à un moment donné elle vient à s'effondrer, ça nous pose problème. Et on est trop gâtés. Il faut savoir que la France est un pays tempéré qui reçoit plus de 512 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, habituellement. Donc en fait, on n'est absolument pas prêt parce qu'on ne s'est pas préparé depuis des années.
Mmh. En tout cas, dans le premier sujet, j'ai essayé de le dire, ça, que c'est vrai.
Et toi devant le micro, Elina.
Vous les auriez écoutés, apparemment, pourquoi pas prendre 3 bains par jour.
Oh non.
Non, mais c'était presque
ça. À par semaine. Hein.
Moi, j'avais une question.
C'est de la délation.
J'ai un côté communiste, hein, faut pas oublier.
Vas-y, Elina, question.
oui, en fait, je voulais savoir ce que vous avez beaucoup lu, en fait.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces agriculteurs qui refusent, pour des raisons évidemment économiques, les restrictions d'eau. Je voulais vous poser, parce qu'eux, sinon ils crèvent.
Alors, les restrictions d'eau, et deux, est-ce qu'il faut faire des bassins de rétention ou pas? Et c'est la question qui fâche celle-là toujours aussi. Alors, allons-y pour les deux questions.
Alors,
les restrictions et les bassins de rétention.
La première, moi je comprends complètement que ce soit un modèle économique et qu'ils aient besoin pour pouvoir survivre d'avoir ce modèle économique. Et d'ailleurs, juste en parallèle, ce modèle économique est aujourd'hui en train de se confronter à d'autres modèles économiques. Qui est-ce qu'on privilégie en premier? Regardez le lac de Serre-Ponçon. Est-ce qu'on privilégie l'alimentation électrique de nos populations avec des lâchers de barrages? Est-ce qu'on privilégie l'activité nautique parce qu'il y a des gens qui vivent à l'année uniquement sur quelques mois de cette activité touristique et on a besoin de garder l'eau? Et puis ensuite, est-ce qu'on donne de l'eau en aval à l'agriculture? Donc on voit bien qu'en fin de compte, tout le monde est en train de se confronter. Et c'est là, il va falloir faire des choix, il va falloir peut-être modifier nos modes de plantation. Utiliser le sorgho, par exemple, a besoin d'énormément de chaleur et de très peu d'eau. Eh bien, c'est quelque chose qui pourrait venir pallier à ce problème. En fait, on est un peu dans un mythe où il faut comprendre que avec la PAC, avec ce qui s'est, la manière dont s'est déroulée l'agriculture européenne, on a favorisé dans l'après-guerre toutes les zones de maïs. C'est-à-dire qu'on est, c'était un peu le jackpot. Quand on exploitait le maïs, eh bien finalement, on avait tellement de primes que c'était extrêmement intéressant et tout le monde s'est massivement lancé dedans. Et donc, bien entendu, toutes les filières sont devenues dépendantes de cette activité massive qui était rentable et lucrative. À l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même se poser des questions. Il faudra peut-être que l'Europe aide la reconversion. Peut-être que ça demandera aussi des années de jachère, parce qu'il y a un autre problème dans l'agriculture aujourd'hui dont on ne parle pas assez. C'est qu'on a des terres qui sont tellement pauvres en matière organique, qui sont tellement vidées de toutes leurs substances avec ces couches de pesticides qu'on leur passe en permanence, que si vous voulez, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus de vie. Et s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus possibilité à l'eau de pénétrer dans les sols. Et donc, nos réserves ne se rechargent pas. Et il faut savoir une chose, on a toujours l'impression que lorsqu'il va y avoir une nouvelle pluie, eh bien toute cette pluie va venir recharger les nappes, hop, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. En réalité, sur 100% de pluie, vous avez qu'en moyenne 9% qui s'infiltrent. 9%, c'est dans le cadre idéal, c'est-à-dire dans un cadre où on a un sol qui est en bonne santé, qui peut permettre de récupérer de l'eau. Donc aujourd'hui, on a créé des sols imperméables partout, dans les villes, avec l'artificialisation des sols, mais aussi dans nos campagnes. Et donc, c'est ça qu'il faut modifier, c'est-à-dire qu'il faut rejouer avec le cycle de l'eau en récupérant cette eau. On a aussi perdu nos zones humides. Les zones humides, c'est ce qui permet de recréer des pluies, des petits cycles de l'eau. Donc en réalité, comme on a absolument plus, on a perdu jusqu'à 80% suivant les endroits de ces zones humides, parce qu'à un moment donné, ça nous posait problème, c'était assimilé à des maladies. Donc en réalité, on avait tendance à assécher, et puis surtout, on gagne du terrain si on assèche tout ça.
Foncier.
Et donc, voilà, on gagne du foncier. Donc c'est toujours une question, finalement, de manière de forçage, j'ai envie de dire, économique, qui font qu'à un moment donné, le territoire évolue. Sauf que là, on est en train de le payer assez cher. On a même plus cette rosée, c'est-à-dire cette eau qui transpire dans nos sols, on l'a plus. Et donc, à la moindre pluie, on voit très bien que l'eau ruisselle directement. Et si vous prenez ces 5 dernières années, 50% des gens qui ont été sinistrés aux inondations le sont en dehors des zones inondables. Ça nous pose quoi comme question? Ça pose la question du fait que c'est plus tant les zones inondables qui posent problème. C'est là où le nuage arrive. Et donc, à ce moment-là, il faut aussi repenser la manière dont on va protéger ces populations. Donc, c'est un petit peu tout ça à laquelle il va falloir agir. Deuxième question.
Ouais. Les bassins de rétention. Ouais.
Alors, les bassines, c'est une fausse bonne solution. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. C'est déjà le cas depuis quelques mois. Mais en fait, si vous voulez, c'est une solution qui va permettre de tenir pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on va vider la nappe au fur et à mesure du temps. Ce que l'on nous dit, c'est on remplit finalement nos bassines, c'est simplement de grandes piscines en PVC, avec un fond PVC, complètement déconnectées du sol, consommées à évaporation massive en permanence. Et donc, en fin de compte, on va extraire l'eau de la nappe l'hiver pour la garder. Pourquoi on la garde? La seule raison pour laquelle on la garde, c'est que quand on est en période de crise comme aujourd'hui, avec arrêté préfectoral, celui qui a une bassine, il peut continuer à irriguer. Celui qui n'en a pas, il ne peut pas s'interdire. Donc en réalité, c'est juste un tour de passe-passe qui nous permet de basculer et de finalement pouvoir continuer à exploiter son agriculture, mais aussi son économie propre, parce que les gens dépendent aussi de cette économie, et je le comprends. Le problème, c'est que si on fait ça, à chaque fois, on rebaisse le niveau de la nappe. La nappe est toujours plus fragile, elle se remobilise en profondeur, elle se transforme, et à la fin, elle ne pourra plus se remplir. Et donc, pourquoi je dis à un moment donné c'est une mauvaise solution? C'est que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut absolument transformer la qualité des sols. Il faut permettre à l'eau de pénétrer. On peut créer des petites retenues d'eau, mais c'est des retenues qui vont garder les eaux de pluie. Ce sont pas des retenues qui vont aller chercher l'eau dans la nappe. Parce que si vous prenez cette eau de la nappe, eh bien, lorsque le niveau de la rivière va chuter, elle s'appuie sur la nappe. Quand vous avez de l'eau dans une rivière, c'est l'eau de la nappe lorsqu'il pleut pas. Et donc, en fin de compte, elle va être 2 fois plus vite à sec. Et c'est tout le vivant autour de la nappe qui meurt massivement et qui est complètement à l'agonie. Quelle société on a envie de créer? Est-ce qu'on peut comprendre à un moment donné que si à un moment donné tout ça meurt, eh bien en réalité c'est toute une chaîne trophique, ouais. Et à la fin c'est notre saumon qu'on n'a plus dans notre assiette. Donc il va falloir réfléchir autrement.
Claire?
Oui, moi je voulais vous poser, j'avais 2 questions à vous poser. Déjà sur la gestion de l'eau, à partir du moment où c'est les communes ou les intercos qui le gèrent, est-ce que ça permet justement d'avoir une autonomie sur toute la France, de voir comment on va gérer l'eau? Moi, pour moi, je dirais non, hein, puisque ça va dépendre. Et également la qualité de l'eau maintenant, puisque les nappes n'ont jamais été aussi basses, et l'eau qui n'a jamais été pompée jusqu'à maintenant est pompée avant qu'elle s'assèche. Et là, ce que l'on a quelquefois quand même dans les robinets, ou même que l'on met, l'eau n'est plus du tout de la même qualité. Et là, c'est un véritable problème aussi.
Ouais, alors, vous avez une minute.
Je pense qu'on a... couleur même.
Je pense qu'on a quand même, en général, c'est vraiment très bien calibré. Si vous avez de l'eau à votre robinet, c'est qu'elle est gérée en France. On n'est pas dans le cas de l'Inde où quand on pompe tellement puissamment en profondeur qu'on récupère de l'arsenic.
Oui, mais vous avez beaucoup plus calcaire à un endroit que l'autre et c'est de plus en plus.
Mais
on
a plus de calcaire
aujourd'hui.
Parce que c'est vraiment lié au milieu naturel qui amène plus de calcaire. Il faudrait peut-être mettre plus de filtre. Donc, en fait, ça c'est pas tellement le problème. Le problème que vous posez, il est essentiel, c'est que les collectivités gèrent l'eau, les collectivités ou les systèmes privés. D'ailleurs, ils essayent de le gérer le mieux possible, sauf que l'eau paye l'eau. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que les consommations d'eau, en fait, permettent de payer ensuite le fait de remettre à jour les tuyaux, tous les systèmes de fuite. Et en fin de compte, si on demande à tout le monde massivement de diminuer sa consommation d'eau par deux, eh bien, à la fin, la facture, elle est divisée par deux. Et c'est autant d'argent qu'on a en moins pour mettre à jour tous ces réseaux et pour pouvoir les entretenir. Et donc, c'est aussi ça le problème pervers, c'est que les villes n'ont pas tellement envie aujourd'hui que vous économisiez d'eau, puisque finalement, elles perdent de l'argent. Donc, le seul moyen, c'est d'alimenter les villes financièrement autrement pour qu'on puisse malgré tout diminuer cette eau et finalement malgré tout être économe et que tout le monde s'y retrouve.
C'est foutu ?
Non, mais il y a tellement de choses à mettre en œuvre, mais il faut les mettre en œuvre.
Ouais. C'est donc la volonté politique.
Bah, il va falloir agir.
Il faut qu'on apprenne à titre individuel à être raisonnable.
Oui, mais à la limite, nous, notre eau domestique, elle est encore tellement minime. Elle a un rôle, mais elle est minime. Il va falloir jouer sur l'agriculture, l'industrie. Est-ce que des systèmes peuvent faire durer comme ça ? Il faut se poser les bonnes questions, c'est ce que je dis.
Merci Emma Aziza de nous avoir fait ce tour d'horizon de l'eau et de ses enjeux aujourd'hui dans les GG. Demain, on fera le tour d'horizon du service des urgences avec Christophe Prudhomme, c'est le président de l'Association des médecins urgentistes de France, parce que la mission flash de François Braun, visible le qui est devenu depuis ministre de la Santé. Elle était en deçà de ce qui se passe en ce moment même cet été aux urgences. On en parlera demain et on sera avec l'avocat de Sarah Salman, Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs et l'éducateur Étienne Nibi. Bonne journée, à demain 9h.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.